Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
C'est pas banal ce qui s'est produit hier lorsque le jugement Perrault a été décavardé, c'est-à-dire qu'on a pris connaissance de ce que les enquêteurs du BEI ont présenté au juge concernant les fuites à l'UPAC. Essayez de résumer ça ce matin pour le bénéfice des auditeurs pour que ce soit le plus clair possible. D'abord, disons qu'il n'y a personne d'arrêté, puis il n'y a personne d'accusé. La preuve présentée est celle qui était disponible au moment où le juge Perrault a entendu la cause qui impliquait Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté. Ils sont venus dire quoi? Ils sont venus dire certains éléments extrêmement importants. Entre autres, que le BEI donc attribue un certain nombre de fuites, 3 à André Boulanger, le numéro 2 à l'UPAC, 6 à Robert Lafrenière, 8 à Anne-Frédéric Laurence, qui est très responsable des coms à l'UPAC, 2 à Michel Pelletier, qui était commissaire associé, pour un total de 19. Je fais entendre Robert Lafrenière, qui témoignait en commission parlementaire, justement au sujet des fuites.
On s'est impliqué directement à eux pour faire en sorte qu'ils soient motivés à continuer de garder le cap, puis de ne pas se regarder, c'est-tu lui, c'est-tu ça, c'est-tu ci. Il y a des choses que je ne peux pas parler de cette enquête-là, mais bon... Je souhaite ardemment qu'on arrive à une conclusion et qu'on trouve le bandit qui aurait fait ça.
Et si le bandit, c'était lui? Et s'il faisait partie de ces bandits? Ce qui n'est pas rien, là. Je veux juste rappeler que c'est le commissaire en fonction à l'UPAC. Et ce que le jugement Perrault nous apprend, c'est qu'il y a eu cette enquête, ce qu'on appelle les vérifications internes de la Sûreté du Québec. Après ça, l'UPAC a enquêté sur elle-même pour savoir d'où venaient les fuites. Puis finalement, le dossier est transféré au bureau des enquêtes indépendantes. Mais là, tu te dis, mais pourquoi? Quel est l'intérêt de faire des fuites? Mais surtout, on apprend que pour diriger le projecteur ailleurs, on a visé des innocents. Ciblons d'autres personnes qui l'UPAC avait dans la mire, entre autres, le député Guy Ouellet qui est avec nous ce matin. Guy Ouellet, bonjour.
Bonjour.
Ils vous ont arrêté. Ils vous ont accusé. Tout ça est tombé, il y a eu un règlement, et même le commissaire de l'UPAC actuel, M. Godreau, est venu lire des excuses à haute voix, pas un simple communiqué, là. Vous avez été complètement blanchi. Vous n'avez pas appris grand-chose hier, là, mais qu'est-ce qui est important pour que l'auditeur comprenne là, quelle est la game qui est en train de se jouer?
Bien, vous me dites, j'ai pas appris grand-chose d'important. Bien oui, j'ai appris des choses que... On veut faire sortir la vérité, M. Arcan. Ça fait 4 ans et demi qu'on veut faire sortir la vérité. On la connaît, la vérité, parce qu'on n'a rien à voir là-dedans. Et de ma poche, moi, je reçois une facture d'avocat, toi et moi, là. Il y avait 23 avocats dans la cause d'hier qui ont tout fait pour que le nom des dirigeants de l'UPAC ne sorte pas publiquement comme ça a sorti, puis pour que le jugement Perrault ne soit pas décaviardé. Fait que juste pour aller là, ben on avance dans la recherche de la vérité. Juste pour vous dire, j'ai été arrêté le 25 octobre, mais j'ai jamais été accusé. Le but de l'exercice, c'était pas ça. Le but de l'exercice, c'était de m'enlever de la commission des institutions pour arrêter de nuire à l'UPAC pour qu'ils puissent avoir le corps de police, ce qu'ils ont aujourd'hui. Fait que c'était ça le but de l'exercice. Puis il y a eu plein de victimes, d'autres victimes qui ont été accusées. Il y a eu plein de personnes qui ont été suspectées. On a fait de la preuve, on a monté des choses, on a convaincu des juges. Et c'est une façon de faire à l'UPAC qui est à...
Mais l'UPAC visait quoi? C'est quoi l'intérêt de l'UPAC? Là? Peu importe que ce soit le commissaire ou le commissaire 2, 3, 4, là... de couler autant... Puis là, c'est pas une petite information, là, c'est pas un détail. C'est des pans de mur d'enquête. C'est quoi l'intérêt de faire ça?
Tous les gens qui voulaient avoir ou faire de la reddition de compte de l'UPAC étaient des cibles à abattre. Tous les gens qui parlaient publiquement que le climat de travail fonctionnait pas bien, que ça allait pas bien à l'UPAC, que les enquêtes avançaient pas, que c'était juste des petits menés qui étaient arrêtés, etc. Tous ces gens-là ont été ciblés par les dirigeants de l'UPAC. On fait partie des suspects du projet A, M. Arcand. Et que ça soit Richard Despatie, Stéphane Bonhomme, Annie Trudel, Lino Zambito, Guy Ouellet, Luigi Coretti, c'est tous des gens qui ont été ciblés par l'UPAC dans ce dossier-là. On s'est organisé, on a monté de la preuve, on a demandé des mandats de perquisition, est allé chercher des mandats de perquisition avec un juge à Sherbrooke, un juge à Granby, pour se monter une histoire pour être capable de justifier les actions criminelles qui étaient faites par les dirigeants de l'UPAC.
Mais mettez-vous à la place d'un citoyen là, ce matin là, qui ne suit pas ça dans le détail comme vous et moi, là, et qui se dit, attends un peu, êtes-vous en train de nous dire, là, quand je dis vous, là, je parle à partir du jugement Perrault, que le boss de l'UPAC, le commissaire anticorruption, aurait orchestré des fraudes, aurait dirigé des enquêtes ou fait diriger des enquêtes vers des gens qui n'avaient rien à voir là-dedans, tout ça pour se protéger?
C'est exactement ce que le jugement Perrault mentionne, M. Arcand. Il y a eu le jugement Perrault, et vendredi dernier, il y a eu le jugement Pronovo qui a permis le décaviardage du jugement Perrault. C'est quand même deux juges de la Cour supérieure, là. Le jugement, le juge Pronovo, c'est un juge, je veux dire, c'est des juges d'expérience. Et quand, à la lumière de la preuve qu'on leur amène, il en arrive à la conclusion que vous venez de mentionner, qu'il y a eu du tripotage de preuves, c'est grave. Je me souviens d'une remarque que vous aviez faite, M. Arcand, il y a quelques mois. S'ils sont capables de faire ça à un député et à des policiers qui travaillent là, imaginez-vous le simple citoyen.
C'est ce que je pense.
Vous le pensez, puis avec raison. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs citoyens qui ont été injustement accusés, qui ont été injustement, à qui on a injustement détruit la réputation, qui vivent encore aujourd'hui et qui n'avaient pas les moyens financiers de poursuivre l'UPAC, parce que on se leurra pas, là, il y a plusieurs poursuites contre le procureur général. Pourquoi? Parce que quand la loi de l'UPAC a été faite en 2011, elle a été faite de façon à ce qu'on ne pouvait pas poursuivre personne à l'UPAC à moins d'une faute grave. C'est pour ça que l'enquête du BEI est très importante.
Mais justement, là, on a un ami commun, Luc Dionne. Quand je parle de ça avec Luc, lui, il est convaincu, il est dans le clan des sceptiques, là, qui dit, il n'y a rien qui va arriver, tout va tomber, ça fait des années qu'il enquête. Conclusion, personne d'arrêté, personne d'accusé. Paf, merci, bonsoir, on s'en va ailleurs. Est-ce que vous êtes comme lui, sceptique?
Ah!
Parce que ça fait des années que ça dure, là.
Après 4 ans et demi, oui, mais il y a encore des choses que le BEI a à vérifier. Je souhaite qu'ils se rendent au bout. On ne peut pas laisser ça comme ça. Le gouvernement ne peut pas se fermer les yeux. L'UPAC, ça fait longtemps qu'on aurait dû fermer ça. Mais là, on la maintient en vie pour des besoins politiques puis pour bâillonner les oppositions. Depuis le 25 octobre 2017, M. Arcand, il n'y a plus un législateur, il n'y a plus un député qui pose aucune question à l'UPAC. Tout le monde a peur. Tout le monde est craintif des conséquences. Ça a donné l'an dernier que j'en ai posé quelques questions au nouveau commissaire. Bien, savez-vous quoi? Quelques jours après, j'ai eu un appel de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale me dire il faudrait que je fasse attention à mon genre de questions, où je vais, puis dans quel contexte. C'est assez particulier. Ça fait qu'aujourd'hui, là, l'UPAC y a maintien en vie, c'est strictement à des fins politiques. Il y a eu un comité sur la réalité policière qui a été recommandé de fermer ça puis de ramener ça à la Sûreté du Québec. Ça devrait se faire. Ben non. C'est bien trop payant de l'avoir là puis que de bâillonner les oppositions puis de faire peur au monde avec l'UPAC. Que ça soit la vieille UPAC ou que ça soit l'UPAC actuelle, ben c'est l'UPAC actuelle dans certains dossiers que les juges ont mentionné qu'il avait inventé de la preuve, qu'il avait menti à la cour et qu'il y avait eu des choses qui n'étaient pas correctes dans la façon de traiter le dossier.
Mais vous pensez que ça va terminer, que le BEI va finir son enquête puis va être capable d'incriminer des gens?
Le BEI nous a dit que les objectifs, c'était de terminer l'enquête d'ici décembre pour soumettre un dossier au DPCP. Parce que c'est le DPCP qui va autoriser les accusations. On ne peut pas, M. Arcand, dans un système démocratique, laisser faire tout ce qui se passe avec l'UPAC. Parce que sans ça, on est d'une dictature puis d'une république de bananes. Puis je me dis, il y aura un nouveau gouvernement ou il y aura un gouvernement à partir d'octobre, parce que les élections sont en octobre, il y aura des décisions qui devront être prises aussi. Là.
Parce que, tu sais, le Watergate, c'était de l'espionnage politique. Puis c'était à des fins, là, des cambrioleurs à des fins politiques. Là, on laisse sous-entendre. Puis là, on comprend, la preuve n'est pas complétée, l'enquête n'est pas finie. Mais c'est parce que là, on est en train de dire aux Québécois, on a une police anticorruption qui était prête à faire n'importe quoi pour obtenir son objectif, que ce soit un renouvellement de mandat, mettre de la pression sur le DPCP. Il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait faire.
Vous avez entièrement raison. Elle n'a plus sa raison d'être. Puis effectivement, elle a dévié de sa mission. Sa mission, originellement, souvenez-vous, elle a été formée pour coordonner les activités de 5 agences extérieures. Donc, pour faciliter les relations entre les deux. Pas pour faire un corps de police, pas pour un moment donné, parce que là, la nouvelle administration... Le gouvernement actuel leur a donné, ils ont pu à passer d'examen, ils engagent qui ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est pire que c'était avant. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est une police qui est au service du gouvernement actuellement. Là.
Est-ce que vous pensez que Robert Lafrenière vous a ciblé parce qu'il vous aime pas depuis longtemps, qu'il vous haït même depuis longtemps, puis que, tiens, m'a réglé ton cas en passant?
Robert Lafrenière... J'ai été ciblé parce que j'étais président de la commission des institutions... commission qui faisait faire la reddition de compte des activités de l'UPAC. J'ai malheureusement, je connais le domaine. Donc, je posais les bonnes questions pour les bonnes personnes. Il n'y avait pas toujours les bonnes réponses. Et j'étais un obstacle aux visées futures que l'UPAC avait à cette époque-là. Enlever le président de la commission des institutions, imaginez-vous le message, puis qui a déjà été un ancien policier, qui a déjà travaillé avec M. Lafrenière, imaginez-vous le message que vous envoyez à tous les autres parlementaires. Ça a fonctionné. Il n'y a plus personne qui veut même se frotter ou poser la moindre petite question à l'UPAC.
Guy Ouellet, merci beaucoup d'être venu ce matin. Guy Ouellet, qui est le député de Chomedey. Maintenant, l'autre volet qui est important... Robert Lafrenière, d'abord, qui nie tout, il a donné des entrevues à Radio-Canada, à la presse, essentiellement pour dire que tout ça était faux, qu'il n'a jamais donné la moindre copie d'une info à un journaliste, qu'il envisage peut-être des recours, qu'il trouve ça dommage, qu'on attaque sa réputation. Et que surtout, là, je retiens cet élément-là, il dit qu'il n'y avait pas besoin de procéder à une arrestation alors qu'il y avait le processus de renouvellement ou pas de son mandat qui était débattu. Donc, il dit « j'aurais été renouvelé de toute façon ». Maître Denis Galland est avec nous. Il est là souvent pour commenter l'actualité. Mais ce matin, je pense que c'est important qu'on comprenne ce qui est arrivé dans son cas parce qu'il s'est rendu à la toute fin du processus, alors qu'il était inspecteur général à la Ville, pour le poste de commissaire de l'UPAC. Bonjour, Denis.
Bonjour, Paul. Puis effectivement, M. Ouellet en a parlé, puis j'ai toujours refusé là, de donner des commentaires là, sur les fuites à l'UPAC, bien évidemment, parce qu'ils m'ont entraîné malgré moi là-dedans. Là. Donc, tu l'as dit d'emblée, écoute, je lis des choses là, dans le journal, comme quoi j'étais en Floride, puis j'ai reçu un contrat, puis je l'ai déchiré. C'est inquiétant là, de lire ça, là, puis que ça a été déposé là, en preuve là, dans une cause, je pense, dans l'affaire de Mme Normandeau. Ceci étant dit, voici ce qui s'est passé. OK? Moi, je postule, je suis inspecteur général, je postule, il y a l'ouverture du poste là, qui se fait là, en bonne et due forme, qui est lancée par le ministère de la Sécurité publique en 2016 pour le renouvellement, pas le renouvellement, là, mais pour le poste de commissaire à la corruption. Donc, moi, je postule, on demande une expérience que manifestement j'ai, je rencontre les conditions et je passe l'entrevue. Et l'entrevue, écoute, c'est pas ce que les gens pensent, là, que c'est des nominations politiques, là, c'est pas ça du tout, là. L'entrevue, là, c'est un board qui est fait, je m'en souviens encore très bien, devant 5 personnes, t'as l'ancienne protectrice du citoyen, t'as d'autres personnes, une ancienne procureure en chef, etc. Et je passe cette entrevue-là, puis c'était pas une partie de plaisir. Ceci étant dit, je fais le processus et j'apprends effectivement que j'ai fait la courte liste. Donc on me demande de venir à Québec aux emplois supérieurs. Puis ça, c'est, et puis je ferme la parenthèse, Paul, parce que je trouve ça bien plate d'être obligé de dire ça. Généralement, c'est des postes qui... tu veux pas le dire... J'étais inspecteur général à l'époque. Tu n'en parles pas à personne, là, que tu postules pour un autre poste. Et si tu ne l'as pas, ben personne ne sait. Puis si tu l'as, ben tant mieux, tu as le poste. Puis c'est arrivé dans la vie. J'ai postulé sur des postes, je les ai eus. Dans d'autres cas, je ne l'ai pas eu. Et dans ce cas-là, effectivement, je ne l'ai pas eu, mais ça, j'en entends parler, moi, depuis 4 ans, et c'est toujours mal rapporté, là. Donc, et ce qu'on fait en sorte, c'est que, comme je disais tantôt, je suis convoqué à Québec aux emplois supérieurs. Généralement, quand t'es convoqué aux emplois supérieurs, là, à Québec, là, c'est t'as le poste, puis on veut parler de tes conditions de travail. Mais c'est pas ça qu'on me dit. Je m'en vais, je me souviens, je rencontre à l'époque le secrétaire aux emplois supérieurs. Bon, je m'en vais rencontrer à Québec. De mémoire, c'est un lundi. Matin, je fais l'aller-retour là, de Montréal-Québec et on parle effectivement de salaire, on parle de conditions de travail, on parle de mes motivations et la personne ne se mouille jamais. Ce qu'elle me dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si jamais le ministre veut vous avoir là, comme prochain, on va vous envoyer un projet de décret. Puis je me souviens, le conseil des ministres était le mercredi, on va vous envoyer un projet de décret avec vos conditions de travail et c'est ça qui va être adopté là, au conseil des ministres du mercredi. Arrive le mercredi, moi j'ai pas de nouvelles, là, le mardi j'ai pas de nouvelles, arrive le mercredi fin d'avant-midi, le secrétaire des emplois supérieurs m'appelle et me dit « Bon, M. Galland, vous êtes une excellente candidature, mais le ministre a choisi d'y aller avec la continuité. » Bon, j'ai dit « Très bien, merci. Moi, je suis encore inspecteur général, je pense qu'il me reste encore 2 ans à mon mandat. Alors, on va passer à un autre appel. » Et c'est ce qui s'est passé, Paul, là. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé par après, ce que j'ai entendu dire que j'étais le choix du ministre, que c'est moi qui aurais dû avoir le travail. Moi, ce boulot, on m'en informe pas, là. Je l'apprends comme vous, je l'ai appris dans le livre de Mme Normandeau qu'au Conseil des ministres, ça s'était parlé. Mais moi,
mais
là,
Denis, là, si on va appeler... Oui, là, je veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais moi, je peux le dire. Robert Lafrenière procède à l'arrestation de Nathalie Normandeau, envoie un message au gouvernement Couillard, en fait, 2 messages. Le premier, voyez ce que je suis capable de faire, arrêter une vice-première ministre ou une ancienne vice-première ministre. Et deuxièmement, si je ne suis pas renouvelé, ça veut dire que le politique se mêle de la police. C'est ça que ça veut dire.
Bien, possiblement. Puis écoute, moi, ce que j'ai là comme information...
Il a obtenu son renouvellement de mandat de cette façon-là. Il n'y a pas de certitude, on n'a pas de preuve de ça. Mais il m'a dit une affaire, ça n'a pas dû nuire dans la pression, là.
Je vais te dire la même chose. Probablement que c'est ça que l'enquêteur là, qui a fait un amalgame de tout ce que j'y ai dit, parce qu'il faut jamais oublier, là, moi j'ai été rencontré dans ce projet-là là, 3 fois. Là, okay? Première fois là, sur les fuites, un enquêteur de la Sûreté du Québec vient me rencontrer au bureau, je fais une déclaration, j'ai rien à cacher, parce que ils savent là, que j'ai postulé là, à l'UPAC. Ensuite de ça, probablement que ça tombe dans le projet A, j'ai un enquêteur de l'UPAC qui vient me voir au bureau et qui prend ma version des fait de ce qui s'est passé, ce que je viens de raconter aux éditeurs. Et ensuite de ça, le projet est transféré au BEI et j'ai un enquêteur de serment qui vient me rencontrer et je donne ma version des faits. Puis probablement qu'ils ont fait des collages parce que ça devait être plus sexy là, de mettre ça soit dans un affidavit ou dans une déclaration. Mais quand ils disent que j'étais en Floride puis j'ai déchiré le contrat, tout le monde sait que si tu travailles, tu as une nomination aux emplois supérieurs, t'as pas de contrat. C'est un décret. Ça existe pas, là. Puis moi, dans mon cas, le projet de décret n'a jamais existé. Ou s'il a existé, moi, je l'ai jamais vu. Deuxième des choses, et quand ils mettent la Floride là-dedans, là, veux-tu savoir l'histoire, là?
Vas-y donc.
C'est qu'à un moment donné, on revient de voyage, ma conjointe et moi, on est en transit, on est en attente à l'aéroport de Fort Lauderdale, et je prends mon téléphone, et je vois arrestation de Nathalie Normandeau. Et j'ai eu une pensée, puis je dis à ma conjointe, je regarde, parce que ma conjointe le savait, j'avais postulé, j'ai dit, mon chien est mort. Mais ça, c'est une perception que j'avais en me disant, ben écoute, le gouvernement, là, je veux dire, ils vont renouveler, là, ils vont possiblement renouveler le commissaire actuel. Comment ça va paraître dans l'opinion qu'au lendemain de l'arrestation de la vice-première ministre, le commissaire, il est changé. Puis moi, j'aurais eu l'air de quoi Paul, à ce moment-là, avoir été nommé, là. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas un libéral, là.
Denis, merci de ces précisions nécessaires.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Bye. Bonne journée. Alors, ça termine ce dossier-là ce matin. On pourrait continuer longtemps. Et je rappelle, personne d'arrêté, personne d'accusé. C'est un portrait de la preuve au moment où ça a été présenté devant le juge. C'est important, là, de mettre ça sur la table. Sauf que, ça veut dire qu'à ce moment-là, les enquêteurs du BEI sont convaincus que le bandit à l'UPAC, ben c'est l'UPAC, que c'est Robert Lafrenière, en partie, et son entourage, allant jusqu'à la fille des coms. Ça veut dire que ces gens-là ont coulé de l'information. Puis l'autre chose importante, juste pour finir, là, c'est pas des petits éléments d'information qui ont été coulés. On parle de dossiers majeurs, documentés, des infos riches. C'est pas n'importe qui a accès à ça. Fait que pour couler le stock, il faut toujours bien que tu sois capable de l'avoir. Qui avait accès à autant d'informations? Qui pouvait orchestrer des fuites comme ça? Fin de la parenthèse.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant de ce rapport présenté par l'ex-juge de la Cour suprême, Louise Arbour, sur ce qu'on appelle les inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes. Plusieurs recommandations majeures et un constat sur cette culture au sein de l'armée où les femmes qui portent l'uniforme n'ont pas été au fil des ans protégées adéquatement. Cette espèce de culture malsaine qui amène à la fois, le silence, à étouffer le scandale et surtout en bout de ligne à faire en sorte que des femmes puissent pas se sentir, protégées par l'employeur qui sont les Forces armées canadiennes. Madame Arbour est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
J'ai passé au travers votre rapport hier. Je regardais ça avec énormément d'intérêt. J'aimerais ça que vous puissiez d'abord expliquer aux auditeurs ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette culture au sein de l'armée que vous avez constatée au sujet des inconduites sexuelles? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
Ce qui est absolument unique, là, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre si on veut faire quoi que ce soit avec les forces armées, c'est que c'est une organisation unique. Les seules choses qui pourraient être comparables à un niveau très théorique, ce seraient les églises ou la magistrature. C'est-à-dire des organisations, on dit souvent que c'est une organisation, une institution totale. Les gens vivent, travaillent ensemble, vivent ensemble, sont recrutés très jeunes. Il n'y a aucun recrutement qui peut se faire à l'externe en cours de carrière. C'est par exemple, si vous avez besoin de 5 nouveaux colonels, vous ne pouvez pas aller dans le secteur privé, certainement pas chez vos concurrents. Vous ne pouvez pas appeler l'armée japonaise et dire on aurait besoin de... On va les payer mieux, on voudrait des colonels. Alors, ça devient des institutions où la culture interne est extrêmement forte. D'autant plus que c'est basé sur la discipline absolue. Et ça exige évidemment l'idée même qu'on est prêt à donner sa vie pour répondre à un ordre sans le mettre en cause. Ça prend beaucoup, beaucoup de discipline. Et beaucoup d'homogénéité. C'est pas pour rien qu'ils portent ce qui s'appelle un uniforme. Ça s'appelle pas un diversiforme. Hein. C'est un uniforme. Alors, l'idée, c'est que pour que tout le monde soit pareil, les vieux concepts, c'était on prend n'importe qui, on les casse, puis on en fait des soldats. Mais ça, là, ces modèles-là, dans la société contemporaine, ça ne peut plus fonctionner. Puis moi, je suis convaincue que ce n'est pas absolument essentiel au fonctionnement de la profession des arts. Il faut s'ouvrir à d'autres valeurs de la société.
Dites-moi, Mme Arbour, est-ce qu'une femme victime d'inconduite, d'agression, d'abus sexuels au sein de l'armée était capable de porter plainte? Est-ce qu'elle était écoutée, entendue? Et est-ce qu'elle pouvait obtenir justice?
Jusqu'à maintenant, là, je dois vous dire que si on écoute celles qui ont parlé, et il y en a beaucoup, ils vont vous dire essentiellement non. On est obligé de dénoncer ses camarades à sa chaîne de commandement. Déjà en partant, c'est perçu dans cette culture-là, comme ça pourrait l'être ailleurs, mais là de façon très intense, comme un manque de loyauté. Et donc, ça porte la personne... Ça, là, vous savez, il y a un devoir de dénoncer hein, dans les forces armées. On n'a pas ça dans la société civile. On n'est pas obligé de dénoncer un crime. La plupart des gens le font. Et pourquoi ils dénoncent des crimes? D'abord parce qu'ils se sentent en sécurité en faisant ça, et parce qu'ils ont confiance que ça va valoir la peine, qu'il y a quelque chose qui va se passer, que c'est la bonne chose à faire. Dans les forces armées, ils ont l'obligation de dénoncer. Et ça, ça cause infiniment de problèmes. Parce que les victimes, par exemple, qui sont pas sûres de ce qu'elles veulent faire, qui voudraient se confier de façon confidentielle, par exemple, à un autre membre des forces, à une amie dans les forces, ou même à leur commandant, ils ont peur que dès qu'elles ouvrent la bouche, la machine est mise en marche. Et là, la machine de représailles est impitoyable.
Il y a un élément clé dans votre rapport, je le résume ainsi, là, que ces plaintes pour harcèlement et bon, inconduite sexuelle, ça soit traité par la justice civile et pas la justice là, martiale, pas la justice militaire. Pourquoi c'est important pour vous de dire on sort ça des forces armées et on envoie ça dans la sphère publique?
Ben ça s'inscrit en fait dans toute l'approche que j'ai prise dans ce rapport-là. Quand mon diagnostic, ça a été... que le problème des forces armées, c'est que c'est un environnement qui est trop hermétique, trop fermé, il faut l'ouvrir à l'extérieur. Alors moi, je leur dis, ce que seulement vous pouvez faire, c'est-à-dire les armes de combat, là, ça, évidemment, vous le gardez. Ce que d'autres peuvent faire aussi bien que vous, dans certains cas, d'ailleurs, je dirais beaucoup mieux que vous, vous devriez l'exporter. Et ça, dans le domaine de la justice, de l'éducation, même dans certains aspects de la gestion des ressources humaines, ouvrez les portes, allez à l'extérieur. On en a des institutions qui font ça mieux que vous, d'ailleurs. Et donc, la justice militaire, en matière d'inconduite sexuelle, à mon avis, elle n'a jamais atteint ses objectifs, qui étaient d'augmenter la discipline, d'augmenter le moral des troupes. Bien au contraire, elle a fait perdre confiance dans la chaîne de commandement. Ça, c'est un gros prix à payer. Moi, je trouve qu'il serait beaucoup mieux servi si, comme c'était le cas avant 1998, s'ils n'avaient pas compétence dans les cours martiales pour les questions d'agression sexuelle. Ça devrait aller dans les instances civiles.
Merci beaucoup, Mme Arbour. Bravo pour votre travail.
Merci beaucoup. Avec
Merci.
Plaisir.
Au revoir, l'honorable Louise Arbour, ex-juge de la Cour suprême du Canada.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Si vous pensez adopter un enfant à l'international, eh bien, apprenez qu'à compter de l'an prochain, Québec va imposer une formation obligatoire, parce que ce n'est pas une décision simple. Et un enfant, c'est un enfant, et il y a un parcours à suivre, il y a un cheminement à comprendre. Et donc, Québec a décidé de rendre ça obligatoire sur un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour en parler ce matin, mais pour parler surtout d'adoption internationale, je vous présente deux invités qui connaissent ça, qui sont passés par là. D'abord, Martine Farran. Bonjour, Martine.
Bonjour.
Et son conjoint, notre collègue Bernard Drainville. Bonjour, Bernard.
Bonjour, Paul.
Ben, je commence avec la personne qui voudra prendre la balle, comme on dit. Vous aviez déjà deux enfants. Pourquoi décider d'en avoir un troisième? Puis surtout, pourquoi décider de se dire on s'en va à l'international?
Tu veux-tu y aller, Martine?
Ben oui. En fait, au départ, on m'avait dit que j'aurais pas d'enfant. Donc, nous, dans notre tête, on avait déjà discuté d'adoption. La vie a décidé autrement, donc on a eu deux beaux enfants. Mais l'idée d'adoption continuait de germer, donc on a décidé après la deuxième grossesse, vu que c'était plus possible d'en avoir une troisième, de mettre en place notre projet d'adoption pour le petit dernier.
Oui, mais enfin, on a perdu le troisième.
OK.
On a perdu le troisième. Puis quand on était au Mexique, on avait commencé les démarches d'adoption parce qu'on était convaincus qu'on ne pourrait pas en avoir un autre. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné au Mexique. Martine est tombée enceinte, on l'a perdu. Là, on était revenu au Québec. Et là, on a regardé les pays qui s'offraient à nous. Puis, on a été chanceux de tomber sur l'organisme Enfant d'Orient et qui ont été extraordinaires. Ils nous ont dit, en Corée, ça pourrait être assez rapide. Parce que nous, on se disait, plus on l'adopte jeune, plus... moins on va avoir de nœuds à défaire, Paul. Mm-hmm. Parce qu'on avait déjà, nous autres, dans notre famille, beaucoup d'enfants qui avaient été adoptés. Mes frères, mes sœurs, ils avaient adopté en Chine, au Vietnam. J'avais des cousins qui avaient adopté en Biélorussie, en Roumanie. On avait déjà une idée un petit peu de ce qui nous attendait. Mais on se disait, si on l'adopte jeune, tu sais, ça va être plus facile. Fait qu'on a adopté Mathis. Mathis, il est arrivé, il avait seulement 6 mois. Sauf que on a sous-estimé beaucoup, beaucoup la blessure causée par l'abandon. Si je peux dire, les dommages faits à l'enfant, c'est pas juste la durée pendant laquelle, mettons, il a été dans un orphelinat, là, pas de parents, là, tu sais, puis un enfant, c'est pas fait pour être abandonné par ses parents, puis en particulier par sa mère. Puis la blessure, là, elle va être ouverte toute sa vie. Puis c'est ça avec quoi on doit composer comme parent.
Martine, quand vous êtes allé le chercher, vous l'avez trouvé dans quel état, j'allais dire, émotif, physique?
Bien, en fait, nous, c'était particulier. C'est la Corée qui nous amène l'enfant.
OK.
Donc, le 24 juin, on s'est tous habillés bien beau. Les quatre, on est allé chercher le petit frère à l'aéroport. Et c'est là que l'expérience a commencé. Ils nous l'ont mis dans les bras. Mmh. Ils nous ont donné un petit sac puis ont dit bonne chance. Et c'est assez intense comme journée là, dans les premières journées, premières semaines. Là.
Mais est-ce que je me trompe si je dis
ouais,
est-ce que je me trompe si je dis que vous saviez pas dans quelles conditions il avait vécu? Vous n'êtes pas allé sur place, vous n'avez pas vu l'orphelinat, vous aviez peu d'informations sur ses conditions de vie?
Bien, en fait, oui, parce qu'on reçoit un peu d'informations sur lesquelles on se base. Nous, on savait que d'abord, les parents l'avaient gardé avec eux une semaine avant de prendre la décision de le donner en adoption. Par la suite, il a été placé en famille d'accueil. Donc, on se disait, bien, il est avec... quelqu'un qui en prend soin, tu sais, personnellement, il n'est pas dans un gros hôpital, par exemple. Donc, elle en a pris soin pendant quelques mois, mais du moment où l'adoption est confirmée, c'est-à-dire qu'ils ont fait le jumelage avec la famille, donc à partir du mois d'avril, Mathis a été donc remis à l'orphelinat jusqu'à ce qu'on puisse le mettre sur... trouver quelqu'un pour nous l'amener ici à l'aéroport. Donc, il y a eu d'abord la première blessure quand les parents ont fait le choix de le donner en adoption. Ensuite, il est arrivé dans un foyer d'accueil. Ensuite, ils l'ont remis à la résidence d'adoption. Puis après, il est arrivé chez nous. Donc, à 6 mois, il y avait déjà eu des blessures. Là. Il y a eu 3 coupures importantes avant d'arriver chez nous. Donc, quand ils arrivent, son état de santé était très bon. Mathis a une super belle santé. Mais c'est des blessures, en fait, qu'on ne voit pas. Tu sais, c'est autre chose, là.
Et j'imagine, Bernard, qu'au fil des mois et des années, ces blessures-là, plus l'enfant grandit, apparaissent. Puis ça veut dire quoi? L'encadrer, lui faire voir des spécialistes, essayer de l'accompagner dans ça?
Ah, ça, c'est très important. Nous autres, on a eu de l'aide, là. Parce que ça coûte cher là-bas. Il faut le dire, là, Paul. Ça coûte cher l'adoption. Là. On aurait pu aller le chercher en Corée, nous autres, là. Mais honnêtement, on était rendu à déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis là, si on pouvait sauver le voyage, fait qu'il y avait l'option des étudiantes qui venaient étudier l'anglais ou le français pouvaient l'apporter. C'était une des options qu'ils nous offraient.
Okay.
On a choisi cette option-là. Donc, donc on a sauvé un petit peu d'argent de cette manière-là. Mais après coup, on savait pas à un moment donné, Paul, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas vraiment c'est quoi, jusqu'à temps que tu sois confronté. Puis quand tu as eu deux enfants bio, entre guillemets, ben, t'as vécu une expérience, m'a donné un exemple bien concret. Moi, mes deux premiers, là, Lambert et Rosie, moi, je les ai beaucoup bercés. Je les berçais, je lui chantais des chansons avant d'aller se coucher, puis tout ça. Mathis, il a jamais voulu que je le berce. Mathis, il me repoussait constamment. J'étais pas capable de le coller sur moi. Martine, c'est la même expérience. Mathis, là, je le prenais dans mes bras, là, puis j'ai essayé pendant toute son enfance, là, tu sais, de le bercer, puis de chanter des chansons. Puis il me repoussait, puis quand il me repoussait, là, tu sais, puis là, il me regardait dans les yeux. Puis j'ai jamais réussi à bercer mon gars, mon dernier, j'ai jamais réussi. Puis c'est extrêmement frustrant parce que... Puis tu finis par comprendre pourquoi, parce que justement, tu vas chercher de l'aide. Nous autres, on a eu l'aide de Joanne Lemieux, qui est extraordinaire, qui est une spécialiste justement de l'adoption, puis qui nous a expliqué, cet enfant-là, là, il a pas confiance en vous autres parce qu'il a été abandonné toute sa vie par les adultes. Alors lui, dans sa tête inconsciente, là, il est bébé, il sait que tu vas l'abandonner. C'est juste une question de temps. Fait que il te repousse parce qu'il veut pas s'attacher à quelqu'un qui va l'abandonner puis qui va y faire du mal. Puis tu finis par comprendre avec le temps qu'il est tellement convaincu que tu vas l'abandonner que dans plus ou moins consciemment, quand il est bébé, c'est inconscient évidemment, il se dit je vais te faire du mal avant que tu m'en fasses du mal toi. Moi je vais te repousser avant que toi tu me repousses, avant que toi tu m'abandonnes encore une fois, tu sais. Fait que toute la notion d'attachement, elle est très, très... est au cœur du processus d'adoption, puis de se préparer à ça, puis de vivre ça, puis...
Martine, j'allais vous poser la question, comme Québec va rendre ça obligatoire, une formation, dire aux parents, vous pensez aller adopter à l'étranger, voici ce que vous devez savoir, puis voici comment ça risque de se passer. Les parents qui pensent à ça ce matin, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir avant de s'embarquer?
Ben, c'est parce que souvent, quand on commence le processus d'adoption, on pense beaucoup à tous les papiers, puis tout ce qu'il faut faire et tout.
Puis il y en a beaucoup.
Il y en a vraiment beaucoup, puis on est évalué, fait qu'on ça nous stresse et tout. Mais ça, c'est un côté. Ce qu'il faut vraiment faire, moi, je dirais, commencer à lire. Il y a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle « La normalité adoptive ».
De Joanne Lemieux, justement.
De Joanne Lemieux. Lisez ça, parce que préparez-vous, parce que les blessures sont pas apparentes, sont à l'intérieur. Puis c'est celle-là qu'il faut qu'on prépare. Puis des fois, quand vous parlez beaucoup de la DPJ, M. Arcan, je vous écoute beaucoup, et moi, je me dis, ces enfants-là qui ont fait 10, 12 familles, là, ben ils ont probablement, et puis peut-être pire, les mêmes blessures, tu sais, donc c'est important de penser les plaies intérieures de ces enfants-là. Puis ça, il faut se préparer. Puis c'est exactement cette portion-là à laquelle on n'est pas préparé. Fait qu'il faut le faire. Faut faire des lectures. Faudrait vraiment que les gens comprennent que c'est ça que nous, la dame nous disait, le ruban, il a été coupé. Puis votre travail, c'est de faire un nœud. Ouais, ben, faut apprendre à faire des nœuds.
En fait, elle nous disait, à toutes les fois qu'il a été abandonné, la corde a été coupée, puis il y a un nœud qui a été fait. Puis elle dit, il va passer sa vie à tester la force du nœud. Mmh. Tu sais, la force des nœuds, en fait. Et puis, mais je veux juste, Paul, je veux pas que les parents qui songent à adopter nous écoutent puis se disent, mon Dieu, c'est juste du négatif. Puis c'est, non.
Ben peur, non.
Non, écoute, c'est le plus beau cadeau de la vie. Là, nous autres, là, on... Mathis, aujourd'hui, il a 18 ans, puis oui, ça a été dur.
Il est extraordinaire.
c'est un enfant, mais tu sais, on a réussi à passer au travers parce qu'on a eu de l'aide.
Ça vaut la peine, c'est ça que tu veux dire.
Non, ça vaut la peine, Paul, ça vaut la peine. C'est le plus beau cadeau de la vie, je te le dis. Mais il ne faut pas cacher la réalité. Il y a des bouts où on était découragés. Il y a des bouts où on se disait on n'en viendra pas à bout.
Il y a des parents qui ont des enfants bio qui sont découragés aussi, des grands bouts.
Exactement.
Mais il faut le savoir. T'sais.
Exactement, c'est ça. Puis c'est pour ça que la question que tu posais, est-ce que ça va être utile, la formation? Oui, ça va être utile. Parce que tout ce qui te prépare va faire en sorte justement que le choc va être moins difficile, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à te préparer mentalement aux tests qu'il va te faire subir.
J'en ai parlé souvent au docteur Jean-François Chicoine.
Oui,
tu sais, des gens qui arrivent en disant, mais nous autres, on ne pensait pas que ce serait ça, puis nous autres, on ne pensait pas que...
Mais il y en a des parents qui finissent par remettre l'enfant à la DPJ, ils sont juste pas capables, là. Ça arrive, ça, Paul, là.
Mais en même temps, terminons sur une note positive.
Oui.
Ça vaut à peine.
Au bout.
Vraiment. Puis, faut juste pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. T'sais, nous, c'était le troisième. Peut-être qu'on se pensait d'aller bon. mais c'est ça, faut aller chercher de l'aide. Puis, faut pas pelleter par en avant. T'sais. Chaque défi, il faut les prendre au quotidien. Puis, pour pas que ça s'accumule. Là, fait que, mais c'est la plus belle chose qui puisse arriver.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Très gentil.
Merci.
Martine Farran.
Bye, Martine. Bonne journée. Là.
Bernard Drinville.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va revenir sur un dossier qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, qui implique Hockey Canada, qui a réglé à l'amiable une affaire d'agression sexuelle contre une jeune femme par un groupe de 8 hockeyeurs d'âge junior. En fait, ce sont des membres de l'équipe Canada Junior de 2018. Ça ne s'est pas produit pendant le tournoi. Il faut savoir que ça s'est produit plus tard, quelques semaines plus tard, alors qu'on tenait un gala, justement, où on honorait l'équipe. Il y avait un tournoi de golf également. Et à la fin de la soirée, il y a une jeune femme qui est montée dans la chambre d'un des joueurs. De ce que l'on sait, ils auraient eu une relation sexuelle consentante, là. Le problème, c'est qu'ensuite, il a ouvert la porte, puis il y a 7 de ses chums qui sont rentrés et qui, eux aussi, ont agressé. En fait, eux auraient agressé la jeune fille, là, qui, là, n'avait pas du tout l'intention, là, d'avoir de relation avec ces gens-là. Alors, Hockey Canada a réglé, c'est 3,5 millions. L'avocat de la jeune fille a dit que sa cliente ne voulait pas dévoiler les noms, n'avait pas de commentaires à faire, qu'elle était satisfaite du règlement et que on passait à autre chose. Mais là, Hockey Canada, par exemple, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on a acheté le silence de la fille? Est-ce que c'est vraiment... comment ça s'est passé? On n'en a aucune idée. Et parmi ceux qui ont suivi le dossier, il y a le journaliste Martin Leclerc de Radio-Canada qui est avec nous ce matin. Salut, Martin!
Bonjour Alain, bonjour Paul.
Salut.
Juste vous dire, peut-être avant de céder la parole, donner quelques noms de l'équipe junior canadienne. Il y a des noms connus là-dedans. Cale Makar, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Deux gars qu'on a connus à Montréal, Cale Clagg, Victor Mété, faisait partie de l'équipe. Maxime Comtois, qui était au dernier championnat du monde. Drake Batterson, Alex Formanton, deux membres des Sénateurs d'Ottawa. Jordan Kyrou des Blues de Saint-Louis. Robert Thomas des Blues également. Le gardien Carton Hart des Phillies de Philadelphie. L'entraîneur, c'était Dominique Ducharme. Mais il faut, comme je disais, là, ça ne s'est pas passé pendant le tournoi, cette affaire-là. Là. Donc, Dominique n'est pas impliqué dans cette affaire-là. Là.
Mais, de toute façon, on ne peut pas... OK, il faisait partie de l'équipe, mais personne ne sait qui sont les joueurs impliqués officiellement.
Non, je sais qu'il y a un agent qui, actuellement, a parlé... pas un agent, mais un journaliste qui a parlé à plusieurs agents de joueurs pour avoir leur version. L'agent de Victor Mété, entre autres, a dit « Écoute, oui, mon client était à Cancun. Il était pas au gala. » Alors, mais comme ça, il y en a quelques-uns qui ont des alibis, semble-t-il. Cale Makar, son agent avait, semble-t-il, un alibi pour son client. Il y en a d'autres. Okay. 4 ou 5 comme ça, à peu près. Là.
Martin, tu comprends quoi dans cette affaire-là, toi?
Ben, moi, ce que je comprends, c'est que Hockey Canada avait absolument pas d'affaire à se mêler de cette histoire-là. On s'entend... je sais pas, tu possèdes une compagnie et que tes employés commettent une faute grave ou un crime pendant qu'ils sont sur leurs heures de travail, tu as une responsabilité civile et tu peux arriver puis faire un règlement hors cours pour t'entendre avec la victime. Mais dans ce cas-là, c'est arrivé en plein mois de juin, après un gala, des joueurs de hockey sortent dans un bar. Il y en a un qui rencontre une jeune femme. Alain a fait l'historique un peu de ce qui s'est passé ce soir-là. Hockey Canada a absolument aucun lien de responsabilité avec ça. Alors, de quel droit? C'est pas la business d'une fédération nationale de se mêler d'un litige comme celui-là et de prendre la responsabilité de, on s'entend, ce sont des allégations de viol collectif, là. C'est pas rien. Alors, pourquoi Hockey Canada s'est mêlé de ça? Et là, il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas de son, pas d'image du côté d'Hockey Canada. On ne veut pas commenter. On dit on a une entente hors cours et on a une entente de confidentialité, donc on ne peut pas parler. C'est très, très facile de faire ça, mais Hockey Canada ne veut pas se mêler de ça. Et la deuxième question, c'est où Hockey Canada a pris l'argent pour régler ça? Parce qu'on s'entend, au départ, c'était une poursuite de 3,55 millions de dollars. On n'a certainement pas réglé ça pour 200 piastres, là. Alors, où Hockey Canada va prendre l'argent? Est-ce que ce sont les contributions des petits hockeyeurs de partout au pays qui vont servir à rembourser ça? Est-ce que ce sont les subventions du gouvernement fédéral, l'argent des contribuables qui va régler ça, ou est-ce que c'est l'argent des commanditaires d'Hockey Canada comme Tim Hortons, comme TELUS, comme SO qui va servir à ça? Alors, il y a des questions assez incroyables. Et moi, Paul, je me souviens, il y a moins d'un an au Québec, là, tout le monde du sport était à feu et à sang avec l'histoire de Logan Mailloux. Qui avait été repêché par le Canadien, qui avait commis une indiscrétion de caractère sexuel en Suède, qui avait photographié sa copine pendant une activité sexuelle et qui avait montré des photos à ses coéquipiers. On est loin de ça, là. C'est un viol collectif qui est potentiel.
Mais Martin, je t'écoute là, puis je me dis, bon, d'abord, on peut pas forcer une victime d'un acte criminel aussi odieux qu'il soit à porter plainte. Ça demeure son choix. C'est la première chose. Deuxièmement, même si tu as une entente civile, là, c'est-à-dire un règlement hors cours, quand il y a une cause criminelle, tu te gardes la possibilité, ça existe pareil, tu peux décider malgré tout d'aller devant les tribunaux. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de porter plainte dans le cadre d'une entente. Je parle d'acte criminel. Ça, c'est important que les gens comprennent ça. L'autre chose, là, on parle de stars. Tu sais, c'est des joueurs qui, pour la plupart, ont atteint la Ligue nationale, sont des joueurs importants. Moi, je regarde ça, puis ça a l'air de dire, là, protégeons nos petits gars qui sont devenus des grandes vedettes. Là.
Mais la Ligue nationale a ouvert une enquête là-dessus. Là.
Oui, je comprends, là, mais...
Là, c'est ça, mais dans quelle mesure ils peuvent intervenir? D'abord, c'est...
Non, mais tu sais,
c'est comme Martin disait, c'était même pas une activité officielle d'Hockey Canada, ça, là. C'est pas dans le cadre du championnat du monde.
Mais on s'entend-tu que les fédérations canadiennes ont un certain historique de protéger des entraîneurs abusifs, de protéger des moutons noirs, de protéger des gens...
Ça s'ajoute à tous les cas qu'on a entendus récemment, là.
Martin?
C'est ça. Ben, c'est tout à fait ça. C'est une affaire de culture. Quand tu fais un détour pour t'immiscer dans une cause comme celle-là, moi, si j'avais été président d'Hockey Canada, en recevant une mise en demeure, j'aurais dit à l'avocat, écoute, poursuis-moi à la vie, à la mort, on n'a aucun lien de responsabilité avec ça. Nous, notre mission comme fédération, c'est pas mal plus de dénoncer les abus ou les agressions que de les couvrir, là, et jamais on va payer pour abrier une histoire comme celle-là. Et Hockey Canada a décidé de faire un pas de côté pour dire, nous, on va sortir de l'argent de nos coffres pour abrier cette histoire-là. Et je comprends parfaitement, je suis d'accord à 100% avec toi, Paul, là-dessus. Tu te places dans les chaussures de l'avocat qui voit entrer une plaignante comme ça dans son bureau. Et là, il faut que tu évalues, là, que si cette cause-là procède, ça va être médiatisé. Son nom va être dans les médias partout. Les noms des joueurs de hockey, sa réputation à ma cliente... va être entachée. Est-ce qu'elle est assez solide pour obtenir un procès comme celui-là? Et il y en a des fois qui décident d'y aller par la voie des poursuites civiles et tout ça. Mais Hockey Canada, ça aurait été aux joueurs de régler ça, mais pas à la fédération de couvrir une histoire d'agression sexuelle potentielle comme celle-là. Là, c'est un viol collectif.
Mais là, écoute, c'est pas banal, là.
C'est absolument pas banal. Et ce qui me renverse, honnêtement, après le tollé qui a suivi la sélection de Logan Mailloux par le Canadien l'année passée, je pensais que ça allait être à feu et à sang partout dans les médias, là, qu'il y aurait eu une réplique ou une réponse ou une réaction très, très vive. Et c'est extrêmement silencieux. Il n'y a personne. Les gens ont dit ouais. Ah, ben, il y a eu un règlement en cours.
Donc c'est correct.
On n'en parle plus.
C'est correct.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Martin.
Salut, Martin.
Merci, au revoir.
Au revoir. Martin Leclerc qui est à Radio-Canada.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
On parlait avec Pierre-Yves tantôt du prix des véhicules usagés. Bon, il y a des chiffres ce matin qu'on retrouve dans la presse, enfin, Auto-Hebdo aussi, là, voulant que le prix moyen d'un véhicule d'occasion soit autour de 35 000 $, une augmentation en l'espace d'un an de 43 %. Benoît Charrette est avec nous. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Bon, on comprend que la rareté fait grimper les prix, là, mais si tu avais nous donné la température de l'eau ce matin, est-ce que... Je vais te poser la question, Ben, est-ce que c'est le temps d'acheter un véhicule?
Pas vraiment. okay. C'est pas vraiment. Écoute, c'est 11 000 $ de plus que l'année passée en moyenne que ça coûte pour acheter un véhicule d'occasion et plusieurs disent que ce n'est pas encore le fond du baril, ça va encore augmenter. La rareté est là, va rester là pour au moins le reste de l'année, une partie de l'an prochain. Moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est si votre véhicule est en bon état, faites un bon entretien, réparez ce qu'il y a à réparer et gardez-le pour les deux prochaines années, le temps que la tempête passe, parce que c'est vraiment pas un bon moment. Ah bon, à moins qu'on ait pas le choix, mais la rareté est rendue extrême. Là, écoutez, c'est les concessionnaires qui appellent les clients pour dire « Vous ne nous vendriez pas votre véhicule parce qu'on l'achèterait bien, nous. »
Mais, attends, tu dis « pour la prochaine année ou deux », ça veut dire que quand tu regardes la capacité de production de l'ensemble de l'industrie, ça va prendre encore du temps avant de retrouver une certaine cadence et répondre à la demande des consommateurs?
Exactement, Paul, parce que là, on n'a pas d'abord, contrairement à beaucoup de choses qu'on entend, on n'a pas encore repris une cadence de production, et ce n'est plus uniquement les puces. Oui, encore les puces, mais la chaîne d'approvisionnement, les pièces sont rares. La guerre en Ukraine fait beaucoup plus de dommages qu'on pense, parce que, entre autres, l'Ukraine est un des plus grands producteurs mondiaux de couettes de fil, les fameux fils électriques dans les véhicules. Là, on a près des fois de 4-5 kilomètres de fil dans les voitures. L'Ukraine est un des grands producteurs mondiaux et ne produit presque pas en ce moment. Donc, il y a des arrêts dans des usines de production parce qu'on n'a pas de fil pour fabriquer complètement les véhicules. Donc, on est encore à l'arrêt ou presque dans beaucoup d'endroits. Et on n'a pas retrouvé la cadence qu'on voudrait avoir.
Question des auditeurs ici ce matin. Est-ce que quand c'est le Québec qui commande, puis après ça, je vais ajouter quand c'est le Canada qui commande, est-ce qu'on passe après beaucoup de pays en termes de priorité pour des fabricants? T'sais, c'est un marché moins important, donc on vous enverra des autos quand on en aura un peu plus.
Bon, je vais essayer de te résumer ça vite, Paul. Tout ce qui est véhicule électrique, les normes européennes sont plus sévères qu'en Amérique du Nord, donc l'Europe a priorité en ce qui concerne « je serai le premier servi
okay. ».
En termes de choix de véhicules, c'est les États-Unis qui décident. Parce que le Canada au grand complet représente à peu près la Californie. Donc, pour beaucoup de constructeurs, on est considéré comme un 51e État. Donc, en termes de choix, si les États-Unis disent oui, le Canada va probablement l'avoir. Donc, tu vois un peu ce qui reste au Québec là-dedans, rien, ou à peu près. Donc, on est beaucoup dépendant de nos voisins américains. Quand les normes au niveau de l'environnement seront aussi sévères que l'Europe, on aura probablement plus de choix chez nous de véhicules parce qu'on aura une priorité qui est supérieure par rapport à ce qu'on a en ce moment.
Merci, Benoît. Bonne journée.
Merci, Paul.
Salut. Benoît Charrette, chroniqueur automobile, qui est rédacteur en chef de l'annuel de l'Auto. En plus de ça, il y a un balado qui s'appelle « Ça tient la route » sur Cogeco.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.